Michael Dantine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes criminologue à l'université de Liège. Samedi soir, lors de l'élection Miss Belgique, une tentative d'attentat a été déjouée dans un contexte où les policiers subissent de nombreuses violences policières en Belgique. Alors, pour commencer sur la tentative de samedi soir, en savons-nous un peu plus ?
Écoutez, moi je lis ce que je lis dans les médias, hein, ou ce que j'entends dans les médias comme le vôtre. Et à ce stade-ci, ben voilà, on a une qualification qui peut être tout à fait temporaire des faits comme une tentative d'attentat, donc ce qui renvoie au terrorisme, donc qui laisserait à penser que des éléments existent au-delà du projet, hein, à proprement parler, que de faire un massacre comme vraisemblablement l'individu l'avait annoncé à son ex-compagne dans un email, ce qui est déjà en soi une démarche un peu étonnante d'organiser une publicité de ce que l'on entend faire avant la commission du dit acte. Alors on ne voit pas très bien de quel terrorisme il pourrait s'agir, puisque les cibles, c'est un concours de Miss Belgique, et à ce stade-ci, il est donc difficile de commenter ce qui est peut-être, l'avenir nous le dira vraisemblablement, une qualification erronée, mais qui pourrait se révéler une qualification tout à fait fondée si des éléments permettaient de considérer que l'individu avait ancré son projet au bénéfice d'une idéologie typée, qu'elle soit d'extrême droite, nationaliste, incel, état souverain, ou que sais-je encore, mais à ce stade-ci, il est difficile de donner plus de précisions.
On peut d'ores et déjà dire qu'il s'agissait d'un loup solitaire et non pas d'une organisation comme nous en avons connu par le passé, c'est la nouvelle tendance ?
De toute façon, si vous voulez, la rhétorique du loup solitaire est une mauvaise rhétorique parce qu'elle laisse à penser que ceux qui ont agi de manière plus isolée, sans commandement, sans mise à disposition d'argent ou d'armes ou même de savoir-faire, étaient coupés du monde et auraient vécu dans un vide d'air qui n'est pas vrai. Quand bien même on retrouve, si vous voulez, des idées et on entre en contact avec elles et puis on se trouve fasciné par celles-ci au détour de réseaux sociaux, d'Internet ou autres, ce sont toujours des rencontres avec les autres, mais intermédiées. En tout état de cause, ici, ça ne semble pas être du terrorisme islamiste, si c'est du terrorisme, bien entendu, comme je le précisais. Et on sait que, même dans le terrorisme islamiste, si vous voulez, l'idée d'action téléguidée, comme ce fut le cas pour les attentats du 22 mars 2016 ou ceux de Paris en novembre 2015, par un commandement d'un État islamique aujourd'hui quand même en large dislocation, ont moins de chances d'arriver. Et dans les autres formes de terrorisme, c'est encore plus rare, si vous voulez, si on prend le terrorisme d'extrême droite, ce sont plutôt des individus qui peut-être communiquent avec d'autres, mais généralement agissent de manière davantage isolée pour ce qui est du volet passage à l'acte. Et c'est ce qui semble être le cas ici, même s'il faut s'empresser d'ajouter, c'est un point d'ailleurs qui interpelle, que l'individu était accompagné, quoique armé, par une dame, une compagne visiblement, sa compagne. Et là, il faudra évidemment aussi voir le rôle que celle-ci a joué.
Alors venons-en maintenant au contexte général, sans faire de lien entre les différentes actions. On a connu récemment une attaque au couteau à la station de métro Schuman à Bruxelles. On connaît des violences sur les policiers, on connaît même bien la situation au port d'Anvers. Est-ce qu'on remarque une hausse de la criminalité en Belgique ?
C'est compliqué à dire parce que là, dans le fait actuel, on n'a pas de statistiques et on sait que les statistiques, d'ailleurs, elles sont un reflet très imparfait de la réalité criminelle puisqu'il y a une grande partie de cette réalité qui demeure cachée et que les statistiques dont on ne dispose même pas ici pour 2023 et ou même fin 2022 nous donnent donc une image parcellaire et distordue, donc c'est très dangereux. En revanche, on voit qu'il y a peut-être un effet de halo, c'est-à-dire une augmentation de l'attention qui peut créer un artefact, si vous voulez, laissant penser que les choses augmentent en ampleur, donc en quantité, voire s'aggravent en qualité, donc. Ça reste une hypothèse, elle est peut-être fondée, mais c'est à voir. Ce qui semble intéressant, c'est évidemment de constater que il y a, indépendamment de cet effet de halo, peut-être un indicateur plus visible d'une société qui ne fonctionne pas très bien, une société dans laquelle les troubles mentaux gagnent du terrain, parce que c'est une société anxiogène, parce que les prises en charge de première ligne sont compliquées, parce que des populations sans cesse plus larges sont en décrochage par rapport aux soins de santé, et dès lors les traitements ne sont pas appliqués ou ils ne sont pas pris, ils ne sont pas suivis, et des maladies mentales peuvent décompenser. Ça, c'est une première hypothèse, c'est un premier marqueur. C'est aussi une société dans laquelle lorsqu'on s'en prend à des policiers, pas dans un contexte terroriste, mais dans des faits de rébellion qui tentent à se banaliser, de rébellion verbale, par des mots blessants, par des crachats, mais de rébellion aussi physique, par l'usage de la violence, voire même par des attaques proactives des forces de l'ordre, comme on a pu en voir, et en Belgique, on en a vu aussi dans d'autres pays. Pays proches, ou encore même des violences à l'égard des services de secours autres que la police, donc des ambulanciers ou des pompiers qui sont pris pour cible, alors que jusqu'auparavant ils échappaient à ce type de comportement. On a là quelque chose qui est de l'ordre du ras-le-bol et peut-être de la désacralisation suprême de toute forme d'autorité, quand bien même cette autorité est utilisée avec un gyrophare pour venir vous porter secours. Et ça aussi, c'est peut-être un mauvais signal. Alors, à nouveau, il faudra questionner le fait de savoir si oui ou non ce sont des phénomènes en réelle expansion ou bien s'ils se donnent plus à voir. Quant aux narcotrafiquants, on est là, si vous voulez, dans quelque chose de très particulier qui est le monde de la criminalité organisée qui a toujours existé. Le narcotrafic et au-delà le trafic du trafic de cocaïne, de toutes les drogues, mais aussi toutes les autres formes de criminalité organisée, la traite des êtres humains, les contrebandes, les contrefaçons, le blanchiment de capitaux, la corruption, le trafic d'espèces sauvages, tout ça a toujours existé. À travers Anvers et la partie de cette visibilité de la violence qui s'est accrue, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas auparavant, mais qu'elle vraisemblablement était beaucoup plus cachée. Je vous rappelle qu'on a quand même découvert une chambre de torture mobile qui était vraisemblablement utilisée avant qu'on ne la découvre. Donc ça, c'est quand même le prototype, si vous voulez, de la prudence dont il faut faire preuve quand on analyse des phénomènes de ce genre-là. Et donc c'est plutôt une plongée, si vous voulez, dans la réalité de la criminalité organisée, ce qui se passe à Anvers, qui nous est, entre guillemets, offerte. Qu'une éventuelle flambée des violences qui indiquerait une éventuelle flambée de la problématique du trafic de cocaïne à Anvers. J'ajoute sur ce point-là qu'évidemment, il y a vraisemblablement une partie de l'augmentation de la visibilité de ces violences qui n'est pas la même chose que l'augmentation de ces violences qui est due à l'efficacité des services de sécurité, douane, police, par les saisies, par les arrestations, par les démantèlements de laboratoires qui ont provoqué eh bien, une déstabilisation du marché et cette déstabilisation induit plus de violence. Ça, c'est une règle que l'on connaît lorsqu'on analyse les marchés criminels organisés. Et donc, vous voyez, il faut, je pense, prudence garder quand on analyse ces différents marqueurs, ne pas faire de liens abusifs, être très prudent quant à la réalité qu'ils découvrent ou non, et dans les liens que l'on peut faire éventuellement dans une interprétation qui est radicalement pessimiste, mais sans verser d'autre part dans l'angélisme, parce qu'il y a là derrière, dans la flambée des extrémismes, dans la flambée des radicalismes, dans la flambée de la criminalité organisée, en tout cas dans des flambées qui ne sont pas peut-être des augmentations, mais en tout cas des niveaux qui sont interpellants, des marqueurs qu'il faut prendre le temps d'analyser soigneusement pour faire un bilan de la société, en n'oubliant jamais cette règle. Toute criminalité, la société dans laquelle elle naît, ce n'est pas que le reflet de la décision d'individu ou d'un individu. Et donc, dis-moi quelle criminalité tu as, je te dirai dans quelle société tu vis. Je pense que cet adage, on aurait tort de l'oublier.
Michael Dantine, je rappelle que vous êtes criminologue à l'Université de Liège. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Je vous en prie.